C'est Frédéric Bosquet qui vient nous présenter ses idées dans notre émission La Voix du Colibri. Frédéric est l'administrateur du mouvement Sol, initié par Patrick Vivray. Sa pierre à l'édifice, ou sa goutte pour éteindre l'incendie, est la diffusion d'une monnaie complémentaire et locale dans plusieurs villes de France. Frédéric coordonne l'instauration du Sol violette. Frédéric, sur quoi doit-on agir aujourd'hui ?
Ah, ça c'est la question. Alors pour moi, l'incendie, en fait, il est dans... Alors, je pense qu'il doit être dans nos endroits, mais c'est celui-là, moi, qui me touche le plus et qui me semble le plus important à mes yeux. Hein. C'est la finance, c'est la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les entreprises qui produisent normalement pour satisfaire les besoins de la population se sont transformés exclusivement pour la plupart d'entre elles en centre de profit, c'est-à-dire on retire finalement de l'argent de cette production, et puis avec cet argent finalement on retire cet argent des territoires pour le placer sur des marchés financiers, et ces marchés financiers finalement ensuite ils ne font que fabriquer des produits financiers pour gagner plus d'argent, et aujourd'hui finalement on se rend compte que 97% des transactions en monnaie se font sur des marchés financiers et à peine 3% dans l'économie réelle. Et quand en plus on sait que 85% de la monnaie est une monnaie de crédit, c'est-à-dire fabriquée par les banques commerciales, on se rend compte que finalement les marchés financiers sont dopés par ce crédit bancaire, en fait, qui n'est pas de la vraie monnaie. La seule vraie monnaie, elle est fabriquée par la banque centrale, c'est les pièces et les billets, et ça représente que 15% finalement de la monnaie en circulation. Et donc cette dope qui arrive via les banques secondaires sert à financer encore plus à la spéculation sur les marchés financiers. Et comme les banques secondaires ne peuvent faire qu'un certain nombre de crédits, à peu près 12 fois plus qu'ils n'ont de monnaie centrale en stock, eh bien du coup, ce crédit ne sert pas à la production, ne sert pas aux collectivités, ne sert pas aux ménages. Et du coup, on observe un endettement progressif de tous les acteurs de l'économie qui, comme ils n'ont pas accès à ce crédit-là, ne peuvent pas développer d'activités nouvelles, ne peuvent pas investir dans des appareils de production respectueux des humains et de la nature, ne peuvent pas faire face à des problématiques sociales et environnementales qui nous touchent. Et aujourd'hui, on assiste en fait à une sorte de privatisation de l'argent qui est devenue une marchandise et qu'on maintient en rareté artificiellement pour justement faire de l'argent avec.
Analyse l'économie expliquée pour les nuls. Donc toi, ton credo, c'est ça, la forêt qui brûle, c'est au niveau économique. Bon, c'est vrai qu'on a pu citer d'autres crises, hein. Il y a la crise de la santé, de l'éducation, de l'écologie, de l'économie, mais finalement tout est lié dans ces crises.
Oui, c'est ça, et c'est pour ça que... Alors c'est vrai que comme je suis un entrepreneur, c'est peut-être ce qui m'a apparu le plus important. Il se trouve qu'à l'époque, dans les années 2000, avant le crack, le premier crack d'ailleurs qui m'a ouvert les yeux en 2000, j'étais PDG d'une SA dans le domaine de l'Internet et on avait réuni un projet industriel qui nous avait pris des années et beaucoup d'argent. Et au moment où on avait développé un générateur de sites internet pour les collectivités locales, les entreprises et les associations. Et quand on a voulu passer à la phase d'industrialisation, bien sûr, il a fallu aller chercher du financement. Et on est allé quémander, entre guillemets, notre argent à des partenaires financiers qui, vraiment, ont trouvé le projet super, ont voulu investir dans notre société. Et ça s'est passé juste à la veille du crack de 2000. Et donc, il voulait vraiment nous aider parce qu'il trouvait le projet génial. Et puis, suite au crack, en fait, le lendemain, il ne me prenait plus au téléphone. Et malheureusement, notre entreprise a dû déposer le bilan. On était 16 personnes. On a remonté l'entreprise avec 4 salariés. On a recommencé un nouveau projet avec un très gros client. Et là, malheureusement, ce client a été racheté par un financier anglais qui lui-même a décidé de changer la stratégie. Et donc, on est parti en fait avec l'eau du bain, en quelque sorte. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment une société peut-elle détruire autant de valeur? Parce qu'on pensait vraiment que ce qu'on avait fait avait vraiment de la valeur ajoutée. Et comment c'est possible que ce marché financier ait autant de puissance et soit encore capable de détruire autant de valeur? Et là, j'ai pris deux décisions. La première, de ne plus travailler pour l'économie réelle, pour ce type d'économie, parce que je ne voulais pas mettre mes compétences au service d'une économie qui détruit de la valeur. Donc j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à l'économie sociale et solidaire. Et la deuxième décision que j'ai prise, c'est de me mettre à temps partiel, donc à mi-temps, et d'essayer de passer à mi-temps à comprendre les mécanismes financiers qui m'avaient mis à terre. Et ça m'a pris une dizaine d'années. Et je pense qu'aujourd'hui, les expérimentations que j'ai menées, que j'ai conduites, ça m'a amené à... Je pense avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe et de mettre en œuvre des solutions qui, j'espère, si jamais elles étaient répétées et généralisées, pourraient permettre d'améliorer les choses en tout cas.
Alors j'aime ton côté pédagogue. Pour définir quelques termes, tu parles notamment du mot valeur. Qu'est-ce que tu entends par la valeur? Qu'est-ce que c'est que la valeur?
Alors pour moi, la valeur en tout cas dans l'économie, hein, la valeur elle est générée par la capacité qu'a un entrepreneur, une entreprise, moi j'appelle entrepreneur toutes les personnes qui produisent un bien et un service, hein, parce que je veux pas faire la différence entre salarié, non-salarié, tout ça. Je préfère parler d'entrepreneur. Donc lorsqu'un entrepreneur satisfait le besoin d'un autre être humain, en fait, eh bien il crée de la valeur, puisqu'en fait cette valeur va permettre de satisfaire le besoin d'un autre être humain. Et si en plus il le fait dans le respect des humains et de la nature, eh bien non seulement il crée de la valeur, mais en plus il maintient en vie, en fait, tout notre système écologique et puis notre cohésion sociale. Donc pour moi, la valeur, c'est cette capacité qu'ont des êtres humains à créer plus de richesses qu'ils n'en consomment. Et donc en créant plus de richesses, ils permettent à d'autres de se développer et eux-mêmes, pourquoi pas, de créer de la richesse, même si je pense que tous les êtres humains ne sont pas obligés de créer de la richesse pour la vendre sur le marché. Alors, la valeur, elle n'est pas forcément monétaire. Ça peut être lire un livre à une personne aveugle, ça peut être faire ses devoirs à un enfant, réparer la voiture à son copain. Parce que toutes les richesses ne sont pas forcément des richesses monétaires. Et c'est bien le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que malheureusement, la valeur, en fait, elle est mesurée exclusivement à travers la monnaie, exclusivement à travers un compteur qu'on appelle le PIB. Et cette mesure, finalement, de la valeur est extrêmement restrictrice. C'est un peu, moi, j'aime prendre l'exemple du rétroviseur, en fait. Hein. Quand on est en voiture, on a un rétroviseur qui nous permet de voir des informations qu'il y a derrière. Et finalement, il y a un angle mort, en fait. Et dans cet angle mort, des fois, il y a des voitures qui arrivent et on risque de se casser la figure. Et bien, le PIB, c'est un peu la même chose. Il a un angle mort, en fait, puisqu'il mesure tout en monnaie. C'est qu'il ne voit pas toute la richesse qui est créée sans monnaie. Et il ne voit pas toute la destruction qui n'est pas mesurée en monnaie. Et cet angle mort, là, dans cet angle mort, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui. La destruction de notre écosystème, l'exclusion de plus en plus importante d'humains sur la planète. Et en même temps, on ne voit pas le travail des bénévoles qui s'arrachent leur vie pour reconstruire ce bien commun, parce qu'il n'est pas mesurable. Et donc, du coup, il nous faut trouver un moyen. Hein, vous savez, sur les rétroviseurs, on met un truc en plus là, pour voir. Bah, ce petit truc, là, c'est des nouveaux indicateurs de richesse qui nous permettraient justement de mesurer ces richesses qu'on ne voit pas aujourd'hui à cause du PIB. Et là, on aurait une vision de toute la valeur. La valeur vraiment, en tout cas, plus élargie, quoi, monétaire et non monétaire.
Je te demandais de me définir la richesse. Qu'est-ce que la richesse pour toi ?
Alors la richesse, ça c'est un terme aussi. Alors pour moi, la richesse elle n'a de valeur que par rapport à la personne qui la mesure, en fait. La richesse que toi tu vas voir n'est pas forcément la même que celle que moi je vais voir. Et généralement elle est liée à nos besoins, à nos désirs. Plus j'ai besoin de quelque chose ou plus je le désire, et plus pour moi c'est quelque chose d'important, et donc je vais y mettre de la valeur, et donc ça va devenir une richesse pour moi. Par contre, ce qu'on peut dire, malgré ces différences de richesse de chacun, il existe une richesse commune, ce que moi j'appellerais le bien commun, c'est-à-dire il y a une richesse qu'on partage, parce que si tu ne l'as pas ou que je ne l'ai pas, eh bien on ne va pas pouvoir vivre, on ne va pas pouvoir grandir, on ne va pas pouvoir se développer. Et cette richesse qui est une sorte de richesse mère, en fait, c'est pour moi le bien commun, c'est-à-dire la terre, l'air, l'eau, l'énergie, la connaissance, on pourrait citer un certain nombre de biens communs, les droits de l'homme, enfin bref, qui sont un patrimoine qui ne devrait jamais appartenir à une personne en propre, mais être géré de façon collective, de telle façon à ce que chacun puisse en retirer ce qui lui est nécessaire pour vivre et se développer.
Donc l'eau, la terre, les minéraux, tout ce qui est vivant finalement,
ouais, voilà,
est une richesse, et on a réussi à lui mettre de la valeur, alors qu'à la base c'est complètement gratuit.
Alors là, moi, j'ai mon opinion par rapport à ça, c'est qu'effectivement, cette richesse, pourquoi aujourd'hui, pourquoi certaines richesses ont besoin d'être mesurées en monnaie ? Parce que moi, même si je comprends aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements très importants par rapport au système financier, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La monnaie, pour moi, c'est d'abord une unité de compte. C'est-à-dire, c'est un outil, c'est une unité de mesure, en fait, comme un mètre, un kilo. La problématique, c'est que, contrairement aux autres unités de mesure, on peut acheter des mètres en plus. On peut changer la valeur de mètre en cours de route. Imagine un architecte qui dessine une maison et puis il confie ça à un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, il commence à construire la maison avec son mètre. Puis le matin, il arrive, le mètre, il fait un mètre, tout va bien. Le lendemain, le mètre, il fait 1m20. Le surlendemain, il ne fait plus que 80 cm. Un jour, il n'y a même plus de mètre du tout. Bah, c'est le problème qu'on a avec cette unité de mesure qui est la monnaie, c'est que normalement elle devrait être en abondance pour mesurer les biens rares, parce que l'objectif de la monnaie, encore une fois, c'est pas de tout mesurer, mais c'est de mesurer les flux pour pouvoir ensuite les réguler. Hein, si on n'a pas d'unité de mesure pour mesurer les flux, on ne peut pas savoir si on consomme trop ou pas assez, de, par exemple, de ressources rares. On ne peut pas aussi projeter dans le temps son renouvellement. Donc le fait de pouvoir mesurer un certain nombre de richesses en monnaie, comme par exemple le temps limité des humains, les humains ils ont un temps de vie limité, et s'ils passent leur temps, par exemple, à servir la collectivité, c'est bien que ce temps soit mesuré parce qu'on le lui doit. Hein. Et c'est bien ça qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on ne mesure le temps limité des humains ou on ne mesure certaines marchandises, non pas parce qu'elles sont rares et qu'elles ont de la valeur dans le sens de force de vie, mais on les mesure exclusivement parce qu'elles ont une valeur marchande sur le marché. Et ça, c'est pas bien. Et du coup, je pense que ce qui est important avec la monnaie, c'est de la remettre à sa place. Et pour la remettre à sa place, il faut simplement qu'on, un, on redéfinisse ce qu'est le bien commun entre nous, deux, qu'on remesure ce qu'est l'utilité commune par rapport à ce bien commun, trois, que cette utilité commune puisse ensuite générer une nouvelle priorisation en termes de distinction sociale. Et quatre, ensuite, mettre au service de cette utilité commune l'appareil de production. Et là, par contre, du coup, la monnaie mesurera réellement à la fois ceux qui vont pouvoir faire des efforts pour restaurer cette richesse et mesurer aussi la rareté économique de certaines valeurs qu'on doit protéger. Et ça, je pense que c'est un travail qui est fondamental. Il faut juste remettre la monnaie à sa place. Hein. Et ça, c'est vraiment le gros travail qu'on essaie de faire.
Donc ça, c'est une utopie ou c'est en train de se mettre en route déjà aujourd'hui ?
Ah non, c'est pas une utopie. Alors, c'est encore tout petit, mais bon, quand on regarde le démarrage des coopératives, des syndicats et des mutuelles au tout début du siècle dernier, ils étaient tout petits, ils faisaient des réunions dans la forêt autour de feu, ils se disaient comment faire pour bloquer telle machine, pour empêcher, pour de telle façon avoir un rapport de force et pouvoir obtenir des droits, etc. Et les mutuelles, ils commençaient à mettre une caisse au milieu d'une table, ils mettaient des sous chacun, et puis quand un était malade, ils lui filaient la caisse, donc c'est comme ça que sont les mutuelles. Donc je pense qu'il ne faut pas voir les choses par rapport au fait qu'elles soient petites, il faut voir les choses par rapport à leurs bénéfices à terme. Et je crois que c'est ce qui arrête souvent les citoyens, c'est qu'ils ont peur de se lancer dans des actions locales parce que c'est tout petit. Mais en fait, ce qui est grand aujourd'hui a été petit hier et a pris de la valeur au fur et à mesure que ça a été utile. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, avec les monnaies complémentaires locales, ce que moi je préfère appeler les monnaies citoyennes, alors, en fait, une monnaie complémentaire et locale, son objectif, en fait, c'est de relocaliser les transactions. Comme je disais tout à l'heure, 97% des transactions se font sur les marchés financiers, 3% dans l'économie réelle. Et la monnaie complémentaire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre du vrai argent, donc de la monnaie centrale, des pièces et des billets. Elle va le déposer, en fait, sur un compte épargne. Et avec le reçu qu'elle va avoir de ce dépôt, le citoyen ou la citoyenne va acquérir, en fait, un bon d'achat, en fait, un titre de dette, en fait. Et ce titre de dette, il se trouve qu'il est accepté comme moyen de paiement dans un réseau de commerçants, d'entreprises, d'associations qui acceptent ce titre de dette en paiement d'un service ou d'un produit vendu pour peu qu'ils aient signé une charte de développement durable et qu'ils étaient agrégés par un comité local. Donc du coup, grâce à cette monnaie, eh bien, le citoyen va pouvoir acheter des biens et des services respectueux des humains et de la nature et en même temps va rapatrier en fait l'épargne sur le territoire qui va ensuite pouvoir se réinvestir soit dans de l'inclusion financière en faisant du microcrédit pour des personnes en situation d'exclusion financière, soit dans le capital d'entreprise de l'économie sociale et solidaire pour redévelopper l'appareil de production respectueux des humains et de la nature. Et ça fait baisser la quantité de transactions sur les marchés financiers et ça augmente la quantité de transactions liées aux biens communs et au développement durable.